Quand on évoque Maurice Ravel, on pense immédiatement à son fameux boléro, connu mondialement. Mais saviez-vous qu'il n'aimait pas beaucoup cette œuvre? Pour lui, le boléro n'était qu'une expérience d'orchestration dans une direction très spéciale et limitée. Il s'exaspérait même de voir le succès phénoménal de son œuvre, allant même jusqu'à dire qu'elle était vide de musique. Après la création du boléro, il aurait entendu une dame qui criait « Au fou !» et Ravel aurait tout simplement dit « Celle-là, elle a compris. » Cela montre que le compositeur ne manquait pas d'humour, ou du moins qu'il était capable d'autodérision. C'était également un homme raffiné, d'une grande culture et au goût éclectique, qui se passionnait entre autres pour les porcelaines asiatiques, les jouets mécaniques et les horloges. Défenseur d'une diversité musicale, Ravel a toujours soutenu ses confrères musiciens dans les épreuves. Il a pris notamment parti pour Stravinsky lors de la création tumultueuse de son Sacre du printemps. Il a également défendu ses amis compositeurs étrangers durant la Première Guerre mondiale, alors que plusieurs musiciens français prônaient de bannir carrément toute musique d'origine germanique. Comme compositeur, Ravel a su faire la synthèse des courants musicaux extrêmement variés tels que le jazz et le blues. Il a imposé son propre style dès ses premières œuvres, style qui n'évoluera que très peu au cours de sa carrière. Il nous laisse un catalogue de plus de 110 œuvres achevées, dont plusieurs orchestrations de ses propres partitions, mais aussi d'autres compositeurs. On le considère d'ailleurs comme l'un des meilleurs orchestrateurs de l'histoire de la musique et son orchestration des tableaux d'une exposition de Moussorgski reste l'une des plus grandes réussites qu'un musicien ait réalisées dans le domaine de l'instrumentation. Maurice Ravel est né à Cibourg dans le Pays basque le 7 mars 1875 d'un père suisse et d'une mère d'origine espagnole. Enfant, il est sensible à toutes sortes de musiques et ses parents l'encouragent à apprendre le piano dès l'âge de 6 ans. Ravel prend ensuite ses premières leçons d'harmonie, de contrepoint et de composition à 12 ans et est admis 2 ans plus tard au Conservatoire de Paris. Ses premières compositions datent de 1893 et reflètent l'influence d'Emmanuel Chabrier. Les premières à être publiées sont le Menuet antique et la Habanera pour piano en 1895. À la veille du 20e siècle, Ravel est donc déjà un jeune compositeur reconnu. Pourtant, son accession à la célébrité n'allait pas être de tout repos. L'audace de ses compositions et son admiration proclamée pour les affranchis qu'étaient Emmanuel Chabrier et Éric Satie allait lui valoir bien des antipathies de la part des traditionalistes. Les années 1901 à 1908 voient ses premiers chefs-d'œuvre, notamment ses Jeux d'eau pour piano, son quatuor à cordes, les trois mélodies de Scheherazade, le recueil de pièces enfantines Ma mère loi ou encore Gaspard de la nuit. Ravel ébauche également Daphnis et Chloé dès 1909, partition qui lui demande 3 années d'un dur labeur. Mais le résultat est à la hauteur du travail fourni. Plusieurs tiennent ce ballet pour son chef-d'œuvre. Au début de la Première Guerre mondiale, Ravel veut s'engager, mais est refusé par les autorités militaires car il est trop léger. Il ne pèse alors que 48 kg. Il finira cependant par devenir conducteur de camion et sera envoyé près de Verdun en mars 1916. Il y sera victime de la dysenterie, puis d'une péritonite pour laquelle il sera opéré le 1er octobre 1916 avant d'être finalement démobilisé 1 an plus tard. Avec la fin de la guerre, l'esthétique musicale de Ravel tend de plus en plus vers le dépouillement. Après la mort de Debussy en 1918, il est alors considéré comme le plus grand compositeur français vivant. Ses dernières années de création verront notamment la naissance du poème chorégraphique « La valse » et de l'opéra « L'enfant et les sortilèges », ainsi que des mélodies de « Don Quichotte à Dulciné » et de 2 concertos pour piano. À partir de l'été 1933, Ravel présente les signes d'une maladie cérébrale incurable qui se manifeste par des troubles du langage, de la motricité et de l'écriture. Cette maladie le condamne alors au silence pour les 4 années qui lui restent à vivre. Malgré ses réticences, une opération est tentée à la fin de l'année 1937. Il meurt cependant le 28 décembre à l'âge de 62 ans, suscitant alors une grande émotion dans le monde entier.